c'est le premier tome des aventures de Nour et Norbert, un bouquin qui raconte l'histoire des mineurs marocains du nord de la France. On écoute le co-auteur du livre, Ricardo Montserrat.
Une mauvaise mine est née de l'envie de raconter aux gens qui ne la connaissent pas une autre histoire du Nord, que l'histoire faite de clichés sur un pays où il n'y a plus que des perdants, des victimes, raconter les combats qui ont marqué l'histoire du bassin minier. Et derrière l'histoire des bassins miniers, la fermeture des mines, la reconversion et tout ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, cette aventure-là est née de l'enquête que j'ai menée auprès des jeunes néo-nazis dans le bassin minier, où je me suis aperçu que ces gamins ignoraient leur histoire. Et ils avaient dans la tête une drôle de soupe faite de choses glanées ici et là, de clichés, de mensonges, de non-dits, soit parce que leurs professeurs ne leur avaient pas raconté, parce que ça fait pas partie du programme, soit parce que leurs parents n'avaient pas parlé, leurs grands-parents encore moins, soit parce que on avait tout intérêt à leur donner une histoire de l'immigration, une histoire du travail ici qui aille dans un certain sens. Et du coup, on a décidé de commencer par la fin, c'est-à-dire comment les mines ont fermé et comment, pour fermer les mines, on a fait venir, on a fait descendre de la montagne 70 000 jeunes gens qui ne parlaient pas français, qu'on a d'ailleurs choisi parce qu'ils ne parlaient pas français, en se disant que cette manœuvre-là serait suffisamment malléable pour que ça se passe en douceur. Et j'ai rencontré donc le collectif des mineurs du Nord, qui est un collectif très combatif, qui autour des personnalités qui avaient mené la grève du statut, c'est-à-dire une grève très dure qu'ils avaient menée pour avoir le même statut que les Européens, eh bien, se sont battus depuis la fermeture des mines pour leurs droits élémentaires, le droit à conserver leur logement, le droit à la santé, le droit à une retraite digne, le droit de rester ici pour leurs enfants, leur famille.
Justement, cette rencontre, comment ça s'est passé? C'était comme vous faites d'habitude, c'est-à-dire des ateliers d'écriture organisés, ou là, ça s'est passé différemment? Comment ça s'est passé?
Ah non, celui-là était un atelier organisé, sauf que ce n'était pas un atelier d'écriture à proprement parler, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la plupart d'entre eux n'écrivent pas, pour la bonne raison qu'ils étaient illettrés et analphabètes, souvent dans leur propre langue. Et donc ça a été un atelier, ça aurait presque pu être un atelier radiophonique, puisque tout était tapé et tout enregistré, ensuite remonté, comme on montrait une bande pour un feuilleton radio ou un film, et donc avec énormément de lectures, et à chaque fois on revenait à l'intérieur du texte, chacun donnait un autre point de vue, rajoutait des détails, rajoutait, ou alors disait « Ah, moi, on va faire venir un tel, lui, là, il était dans une autre fosse, il a une autre histoire. » Et peu à peu, comme ça, d'histoire en histoire, le roman s'est écrit avec, je dois ajouter, avec l'extraordinaire pouvoir de la fiction. Parce qu'ils avaient déjà écrit leur histoire, mais un livre de sociologie, un livre très, j'allais dire, un peu coincé, quoi, par l'objectivité. Là, ils ont pu, à travers le roman, le fait qu'ils avaient la liberté de créer des personnages de fiction, raconter des choses qu'ils n'avaient jamais racontées, notamment la souffrance, la douleur, la solitude, l'indignité, des choses qui sont très très lourdes et qu'ils n'avaient jamais pu raconter en dehors de conversations comme ça entre eux.
Oui. Ouais, c'est ça qui est étonnant dans ce bouquin, je trouve, à la lecture des premiers chapitres, c'est que même si c'est une histoire qu'on connaît, qu'on croit connaître en tout cas, là on découvre vraiment des témoignages très personnels et puis des détails très réalistes sur ce qui est sur leur histoire, quoi.
Oui, leur histoire, et puis pas seulement des détails doloristes, on rit beaucoup dans ce bouquin, il y a beaucoup beaucoup d'humanité, mais dès le deuxième atelier, ils ont compris que c'était de la fiction. Ils ont compris que 1, 2, 3 personnages porteraient toutes les histoires. Et donc peu à peu, il y a eu un enthousiasme là, c'était des après-midi qui n'en finissaient pas, tellement, surtout qu'on passait du français au berbère, du berbère à l'arabe, on revenait au français, pour donner du poids au personnage, pour donner du poids à l'histoire, et pour que... C'était vraiment... D'un coup, j'ai compris à un moment que, en fait, ils étaient en train de parler à travers le roman à leurs propres enfants, parce que la plupart d'entre eux arrivaient à la maison et ne disaient rien. Comment ? Ne disaient rien parce que comment raconter à son fils que pendant toute une journée ou toute une nuit, ils avaient vécu comme des bêtes dans le fond. Donc ils ne le racontaient pas. Et là, à travers le roman, j'ai bien senti qu'ils parlaient à leur fille, à leur fils. Beaucoup ont peur de mourir, parce qu'ils sont, beaucoup sont malades, silicose, anthracose, enfin toutes les maladies liées à la poussière de charbon. Et j'ai senti qu'ils profitaient de l'occasion pour écrire une sorte de lettre ouverte à leurs enfants et petits-enfants. Et à ceux qui sont au pays, parce que quand ils arrivaient au pays en vacances, lors des congés, même chose, ils arrivaient comme des riches avec leur salaire de l'année, et du coup, ils n'osaient même plus dire qu'ils étaient malheureux.
On ne s'habitue jamais à la misère, on ne la voit plus. On la voit, mais après une journée sous terre. On est tellement fatigué à ne plus pouvoir se relever. On se dit, on va d'abord dormir. On se dit qu'on va mourir dans son sommeil tellement on est fatigué. On ne peut pas dormir tellement on a mal aux os. On a mal au pays. On se dit qu'on ne va pas rester, qu'on va repartir. Puis on s'habitue. On ne s'habitue pas, on s'enfonce. On ne pense qu'à une seule chose, tenir. Tenir. Tenir.
Quand on parle d'immigration, on pense souvent à l'immigration algérienne, mais l'Algérie a un autre rapport à la France. Eux, les Marocains, se sentent beaucoup plus indépendants de la France, beaucoup plus... Ils ont une fierté de leur histoire et ils étaient venus ici sur un contrat, mais un contrat moral. Hein, on vient là avec notre force de travail, on travaille comme des bêtes, on ne demande rien à personne, hein, on demande juste le... Et après, on repartira. Ce qui m'a le plus étonné, c'est l'escroquerie, mais du début, dès le premier jour, dès le premier contrat. Et il y a eu tromperie, escroquerie, mensonge. Et ça a continué, mais année après année, où on a menti à ces gens qui étaient des naïfs, des ingénus, qui ne pensaient pas, n'imaginaient pas qu'on puisse comme cela les promener, quoi, les voler de leur dignité. Ça m'a étonné, et ce qui m'a le plus étonné aussi, c'est que c'est une histoire, quand on la lit, hein, elle a l'air de se passer avant-guerre, quoi, avant la Seconde Guerre mondiale, et en fait non, c'est une histoire très récente. C'est une histoire donc qui commence sous Pompidou et Giscard d'Estaing, et donc c'est une histoire vraiment récente. On parle d'anciens mineurs, mais ce sont des gens qui ont 50 ans, 55 ans, qui sont encore en pleine force de l'âge, quoi, qui sont encore avec la tête pleine de rêves. Et cela, ça m'a bouleversé.
Alors le livre raconte aussi la lutte pour la dignité de ces mineurs marocains, une lutte qui continue, hein, vous en avez parlé, mais qui continue encore aujourd'hui au travers des injustices qui perdurent en fait.
Ah oui, vous savez que les houillères ont sous-traité la reconversion des mineurs, et à un moment on leur a même dit qu'ils n'avaient jamais été mineurs. Les dossiers avaient disparu, il y avait de nouveau une espèce d'escroquerie, comme on leur avait fait signer un papier, et il a fallu qu'ils arrivent au tribunal, d'ailleurs sans avocat. Ils sont arrivés avec des fiches de paie qu'on leur versait depuis que la mine avait fermé, et c'était marqué salaire zéro. Mais c'était même des fiches de paie qu'ils ont tout simplement déposées sur le bureau du président du tribunal, qui s'est retourné vers les avocats des houillères et qui ont dit, ben voilà, hein, zéro. Peut-être zéro de salaire, mais ils sont toujours mineurs. Et donc, il a fallu qu'ils se battent, mais vraiment, ce ne sont pas des combattants au sens, ce sont des gens discrets, des gens, des taiseux, des gens, des montagnards. Et ils n'ont pas l'habitude de se battre, de gueuler, quoi, de râler. Et là, on est allé tellement loin que du coup, eux aussi sont allés très loin, grève de la faim. Ils ont séquestré leur patron, ils ont tenu, appel, contre-appel. Et là, récemment, ils ont apparemment gagné en appel, mais déjà derrière l'appel, ils ont l'impression que certains d'entre eux vont être à nouveau escroqués, quoi. La bataille n'est pas finie. C'est pour ça que je suis très content que le roman soit sorti en ce moment pour appuyer leur combat, parce que derrière, on va raconter ce qu'il y a derrière. C'est pas seulement la reconnaissance d'une lutte passée ou d'une histoire passée, mais derrière, il y a leurs enfants et leurs petits-enfants dont ils sont très fiers. La plupart d'entre eux, ce sont, à grande majorité, s'est sacrifié pour que leur famille ait une vraie maison, de vrais emplois, une vraie éducation. Et le suivant, donc un des épisodes suivants qui s'appellera Les Fossoyeurs, racontera l'après, quand tout à coup, leurs enfants les ont regardés comme s'ils s'étaient battus pour rien, quoi. Tout juste, ils leur ont pas dit, mais pourquoi vous vous êtes tus pendant toutes ces années? Qu'est-ce qu'on en fait là? Et là, cette bataille pour dire, nos enfants ont mérité de vivre ici. On a gagné chacune des années qu'ils vivent ici, ce sera donc l'enjeu des Fossoyeurs.
On croyait partir vers le paradis, mais c'est un enfer qui nous ennuie. Un enfer, rien que pour nous. Enfer, les mines.
Après Ricardo Montserrat, co-auteur de ce livre « Mauvaise mine », on écoute maintenant Abdella Samat de l'Association des mineurs marocains du Nord.
Bah, moi, ce livre, c'est encore une fois de plus un message, mais aussi une histoire, une mémoire qui s'est passée dans le Nord-Pas-de-Calais, que la plupart des personnes du Nord-Pas-de-Calais ne connaissent pas, encore moins au niveau national. Donc, on voudrait que les personnes, quelles qu'elles soient, et en particulier nos enfants ou nos petits-enfants, connaître un peu l'histoire de leurs parents ou leurs grands-parents dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça nous permet aussi d'un peu balayer un phénomène de racisme, mais aussi des inégalités, mais aussi des idées qui sont fabriquées chez certaines personnes sans connaître l'histoire et la réalité de ces personnes-là.
Oui, parce que les bouquins qui avaient été écrits avant, c'était plutôt une approche sociologique. Et donc là, c'est vraiment, il y a des souvenirs très personnels de ce que les gens ont vraiment vécu, qui sont dévoilés dans ce livre. Une histoire que certains croyaient connaître, et puis finalement, on se rend compte que même si on connaît un petit peu l'histoire des mineurs marocains, au fil des pages, on découvre beaucoup de choses.
Vous avez tout à fait raison, mais c'est ça, à chaque bouquin, il parle d'une autre manière, mais aussi d'un autre... l'histoire, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à dire. On a, vous savez, la vie de 50 ans dans le bassin minier, et la manière que les charbonnages ils sont venus nous chercher, en particulier Félix Mora, nos voisins, ceux avec qui on a travaillé au fond de la mine, ne le connaissent pas. Donc on voudrait leur expliquer notre vécu et aussi notre histoire, parce qu'elle n'est pas simple, mais aussi elle est tragique, parce qu'on a subi des choses. Donc on voudrait que tout le monde sache, mais aussi pourquoi on est là, pourquoi nos enfants sont là.
Alors, le bouquin retrace le combat pour la dignité des mineurs marocains, un combat qui continue aujourd'hui. Alors, on en est où de ce combat?
Alors, il est vrai que les bouquins, au pluriel, nous aident à faire passer le message, parce qu'il y a des personnes, quand ils nous voient, on n'est pas content, on se plaignait, etc., et ils croient que voilà comme ça. Par contre, quand on voit les journaux, on voit les livres comme cela, et comprend bien les raisons qui nous ramènent à ne pas être content. Bien sûr, le combat continue, parce que nos droits étaient bafoués. Et bafoués, c'est lui des mineurs maghrébins, et en particulier marocains. Mais d'une manière générale, mais aussi les droits acquis des mineurs, d'une manière générale, ils ont été bafoués aussi, parce qu'ils ont donné, ils ont travaillé, et aujourd'hui, ils doivent bénéficier de leur plein droit acquis, avec lesquels ils ont croyé que c'est à eux. Donc on a les veufs, on a des personnes silicosées, des Polonais, des Italiens, des Français et d'autres. Donc ces personnes-là, on parle aussi d'eux, mais aussi parler de l'histoire de la mine qui leur permet d'être reconnus. Alors le combat, on continue, bien sûr, on a gagné aux chambres sociales, qui a confirmé la condamnation de l'NGDM. On continue également à défendre logements et chauffage qui a été confisqué aux mineurs qui a bénéficié d'un fameux conversion bidon, mais également ce qui a été trahi par rapport à la retraite anticipée, mais aussi contre le charbonnier.
Abdellah Samat de l'Association des mineurs marocains du Nord. On a entendu aussi Ricardo Monserrat, auteur de ce livre « Mauvaise mine ». Tous les deux croisés le 1er mai dernier au Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale à Arras. On a entendu aussi brièvement dans ce sujet la comédienne Fatia Nasser avec quelques extraits d'une lecture qui était donnée pour la présentation du bouquin à Béthune. C'était le 23 avril dernier. Merci au passage aux camarades de Campus Lille pour cet enregistrement. Mauvaise mine, c'est donc le premier tome des aventures de Nour et Norbert. À venir donc d'autres bouquins, Les Fossoyeurs, Les Mains d'Or, qui est déjà diffusé en feuilleton dans le journal L'Avenir de l'Artois. Pour plus d'informations, contactez l'association arageoise Colère du Présent au 03 21 15 35 87. 03 21 15 35 87.
ولا لمخيمة.